Un article du Devoir a attiré mon attention ce matin. Il est question de la révision de manuel d'histoire. En septembre, on avait parlé du choix de remplacer le mot amérindien pour autochtone dans un livre destiné au secondaire 3. L'opération avait coûté 1,6 million de dollars. Et voilà qu'on apprend qu'en plus de ce terme-là, il y a une centaine de passages qui ont été modifiés, effacés ou ajoutés. On en discute avec Gilles Laporte. Il est professeur d'histoire au Cégep du Vieux-Montréal. Bonjour, Monsieur Laporte.
Bonjour, Monsieur Blanchet.
D'abord, rappelez-nous un peu l'affaire. Qu'est-ce qui avait motivé le ministère à réviser et à remplacer les manuels d'histoire en usage dans les classes de troisième secondaire?
Bon, écoutez, il y a eu un beau geste qui a été posé par le précédent gouvernement consistant à réformer le programme d'histoire. Il a été réformé, il est beaucoup mieux. Il est maintenant réparti sur 2 années. Ça le fait l'unanimité. Ceci dit, il a fallu maintenant produire des manuels pour se conformer à ce nouveau programme. Or, ces manuels ont été produits, ont été validés par le ministère, et une fois parus, distribués dans les écoles et subventionnés par l'État, il y a eu des groupes qui se sont exprimés, qui se sont manifestés à propos du comment on désignait des choses, comment on nommait certains événements. Et tout compte fait, c'est devenu une grosse opération de papier-collé, de copier-coller à plusieurs endroits où il a fallu modifier l'ensemble du texte, non pas sur le fond, mais sur la forme, comme vous l'avez dit, la formulation de Première Nation plutôt qu'Amérindien, etc. Ce qui fait en sorte qu'on a entièrement détruit l'ancienne édition pour en produire une toute nouvelle.
Cette démarche-là, est-ce qu'on doit la lier directement au dépôt du rapport de la Commission Vérité-Réconciliation ou est-ce que c'est vraiment les groupes de pression qui ont été un peu trop efficaces et qui ont réussi à faire plier le ministère?
Ça n'a pas un rapport direct, non, mais sauf que c'est dans l'ambiance. Hein. Vous savez, les groupes désormais sont vigilants à propos de la place qu'on leur réserve dans les médias, puis dans y compris dans les manuels d'histoire. Alors, ils sont attentifs à ce phénomène-là. Alors, comment parle-t-on de telle communauté dans le passé et tout le reste? C'est normal. On s'intéresse au traitement que l'histoire applique à des événements passés, mais ce qui pose problème, c'est lorsqu'on utilise l'histoire pour mener dans le présent des combats. À ce moment-là, bon, on utilise des termes, comme par exemple amérindien qui a été jugé, même si son usage est répandu parmi les scientifiques depuis des années, on le juge désormais suspect, voire discriminatoire. On préfère un terme comme Première Nation. Bon, on peut fonctionner, c'est de la rhétorique, là, mais il demeure quand même que ça montre l'intérêt là que des groupes actuels portent au traitement dans l'histoire. Et là, ça devient plus embêtant lorsqu'on commence à essayer de réviser la lecture qu'on peut faire de certains termes. Par exemple, il y a un événement dramatique qui s'est déroulé dans la région de Montréal en 1689, le massacre de la Chine. On l'écrit comme ça dans tous les manuels depuis longtemps. Ben, il va falloir réviser désormais l'usage de ce terme-là parce que, il donne un visage désavantageux au rôle des Premières Nations.
Je voyais justement dans le Devoir ce matin qu'on a retiré l'allusion à un autre massacre entre autochtones, celui de l'archipel du Bic au 16e siècle. Et on a décidé de remplacer ce passage-là par un texte de Champlain sur l'apport des autochtones à l'exploration des ressources du territoire. En fait, on a enlevé une réalité qui avait été beaucoup plus difficile par une autre qui est beaucoup plus positive pour les représentants des Premières Nations, là.
Voilà, et on risque à terme de donner un déséquilibre, donner une fausse impression sur l'ensemble de la réalité en Amérique du Nord avant l'arrivée des Blancs, donnant peut-être l'impression que ces choses-là n'existaient pas, alors que les guerres entre nations autochtones étaient courantes, voire constantes. Alors, maintenant, est-ce qu'on doit, cacher d'autres réalités? Certainement pas. Il faudrait certainement viser cet équilibre-là et certainement pas se servir de l'histoire pour se donner une image un peu plus positive, etc., dans le présent.
Justement, M. Laporte, c'est comme si on voulait amoindrir des comportements qu'on pourrait qualifier de barbares, là, de nos ancêtres, mais les élèves dans les classes sont assez intelligents pour comprendre que les façons de faire il y a 450 ans, ça n'a rien à voir avec les Autochtones d'aujourd'hui. Puis malgré tout, on veut les protéger contre tout amalgame, puis on veut pas qu'il y ait de stéréotypes. Pourtant, c'est l'histoire. C'est comme ça que ça s'est passé.
Vous avez parfaitement dit, ils sont rationnels, ils sont raisonnables, mais on veut les protéger, les prémunir contre une lecture qui pourrait teinter leur interprétation dans le présent. Ils sont capables de faire la part des choses. Et à terme, le danger, c'est que finalement, ça passe aux usages, ça s'installe, cette perception-là, que le passé était absent de toute lutte, de toute tension, et que le monde actuel est le résultat d'une évolution douce de gens sympathiques qui, à travers l'histoire, ont collaboré en vue de créer le monde actuel. À terme, là, pour un historien, ça pose le problème de la rigueur, de la précision, puis de l'authenticité du récit que désormais qu'on donne de notre passé.
Mais Monsieur Laporte, il me semble que le rôle des livres d'histoire, des profs d'histoire, c'est pas de faire de l'interprétation. c'est de rapporter ce qui s'est passé, mais je comprends pas qu'on en tombe à ce point-là dans l'interprétation. Ah, cet événement-là, si ça peut faire en sorte qu'on ait une mauvaise image, on est mieux de l'enlever. Moi, ça me fait
flipper. On interprète constamment, ne serait-ce que pour rendre les choses intelligibles, il faut les expliquer. Mais je crois que derrière votre remarque à propos d'interpréter, il s'agit de faire des choix. On fait des choix entre la kyrielle d'événements qu'on a entre les mains. Maintenant, on décide d'en mettre de l'avant ou d'en retirer. Alors, c'est normal de faire ce genre de travail. Il y a un tri à faire. Ce tri-là ne doit pas être dicté par des principes moraux, par exemple, ou éthiques, qui visent à présenter un portrait de la réalité qui s'écarterait de la réalité. Et l'interprétation, elle est normale. Les jeunes doivent aussi apprendre à interpréter le sens des événements, mais tout en ayant l'ensemble du portrait. Et si on leur cache a priori une partie de la réalité, ben là, ils ne peuvent plus faire justement ce sain exercice d'interprétation.
Il y a des groupes de pression qui ont milité pour ces changements linguistiques-là, ces changements de termes, ces changements de termes exactement dans les manuels. Pensez-vous que le ministère en est rendu à avoir peur d'être la prochaine cible ou qu'il y ait d'autres controverses du genre tellement qu'ils changent les termes avant même qu'il y ait des groupes qui montent aux barricades pour se montrer offusqués?
Indéniable. En fait, c'est devenu très compliqué, vous savez, en 2018, de produire un manuel pour les écoles. Le cahier de charge est très lourd, le programme, les compétences, vous en avez une idée, mais en plus de ça, il faut faire attention à comment la société va réagir. Les gens ont la peau très, très sensible, là. Les groupes ont la peau sensible à propos du traitement qu'on applique au passé, puis ça fait en sorte que les auteurs de manuels doivent être prévenus envers ça. Là, on se retrouve avec une situation où il y a beaucoup de messages politiques qui sont envoyés. Et puis, c'est assez difficile de voir s'il y a une tendance qui se dégage, mais à tout le moins, la tendance à l'heure actuelle, c'est d'éviter tout ce qui pourrait être susceptible de choquer, même si c'est conforme au passé historique.
Vous avez exprimé votre opinion dans Le Devoir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des membres des Premières Nations qui ont la même attitude que vous face aux changements qui ont été apportés?
Oh oui, je crois pas que ça soit les blancs ou non-blancs, là. Il s'agit d'une façon d'envisager la place dans l'histoire. Les Premières Nations ont eu leur place revalorisée dans l'enseignement de l'histoire. Je suis le premier à applaudir avec bon nombre, là. Leur contribution a trop longtemps été sous-estimée. Et il s'agit de restaurer cette place-là, mais tout en préservant leur authenticité. L'héritage, la culture autochtone mérite un meilleur traitement et elle est en soi digne de mention et d'intérêt. Nul besoin de l'embellir ou de l'adoucir. C'est une culture qui est exemplaire, qui est très intéressante à suivre, mais sans essayer, par exemple, d'essayer de les présenter comme des pacifistes ou des écologistes, ce qu'ils ne prétendent pas être et ce qui consiste en fait à plaquer nos référents du présent dans un passé idéalisé qui n'existe pas.
Je veux retourner aux classes en terminant. En fait, les manuels, c'est des outils pour les professeurs. Eux ont une formation universitaire de 4 ans dans nos écoles secondaires. Est-ce que vous avez confiance au personnel enseignant pour bien faire son travail puis faire la part des choses malgré cette espèce de courant de rectitude là qui est dominant au Québec actuellement?
Oh là là, vous touchez un gros problème. Bien sûr que j'ai foi en mes collègues puis ils font un travail héroïque puis Dieu sait qu'ils ont des conditions difficiles, mais ils savent aussi qu'ils sont de moins bien formés. Ils ont un bac de 4 ans, certes, mais à peine quelques cours d'histoire pour ensuite aller se coltailler avec des jeunes adolescents. Il y a ici problème. Les profs maîtrisent de moins en moins la matière. Ouais. Bon, ils peuvent être maintenant des bons pédagogues. Exact. Ils apprennent selon la nouvelle rhétorique des didacticiens. Mais il demeure qu'un bon prof, c'est d'abord un prof qui connaît sa matière. Et eux-mêmes sont de plus en plus fragiles dans leur matière et ont de moins en moins d'assurance au moment d'aller l'enseigner. C'est un proche un chantier sur lequel il va falloir davantage se pencher. On appelle ça la formation des maîtres et elle présente de nombreuses failles à l'heure actuelle.
Merci, M. Laporte, d'avoir pris la parole aujourd'hui pour cet enjeu-là.
Merci de votre intérêt pour l'éducation.
Bonne journée, au revoir. Gilles Laporte, il est professeur d'histoire au Cégep du Vieux-Montréal. J'avais été offusqué par ce gaspillage de fonds publics au mois de septembre, 1,6 million pour remplacer des livres qui n'avaient pas besoin d'être remplacés, uniquement pour remplacer quelques termes. Mais là, on comprend que c'est plus large que ça, les modifications qu'on a apportées, puis qu'il y en a beaucoup qui ont été prises pour des considérations de rectitude, carrément.
Puis la question qu'on n'a pas posée à M. Laporte, effectivement, parce que là, c'est politique, c'est lui, c'est un prof d'histoire, lui. Mais c'est pourquoi on n'a pas attendu qu'on soit vraiment rendu à rééditer les livres d'histoire, tu sais. C'est des livres qui étaient pratiquement neuf, si je ne me trompe pas, qui avait été publié en 2016-2017. Tu sais, je veux dire, on aurait quand même pu... C'était quoi l'urgence nationale là, de modifier ça dans les livres d'histoire, puis que ça coûte une fortune à l'État? Il n'y en avait pas d'urgence.
Ouais. J'avais une vision un peu romantique des cours d'histoire, en fait, que c'était la science, puis qu'on rapportait des faits qui sont survenus à l'époque, que ces groupes de pression-là n'avaient pas une influence jusque-là, jusque dans les manuels d'histoire, qui sortent dans la rue quand il y a un spectacle comme Canada de Robert Lepage. Je peux comprendre, l'art, c'est soumis à l'interprétation. Mais là, c'est des manuels d'histoire. C'est supposé ramener les faits de ce qui s'est passé il y a
C'est exactement pour ça que j'ai posé la question sur l'interprétation, parce que moi, j'avais une vision très journalistique de ça aussi, tu sais. Mais visiblement, c'est pas ce que M. Laporte nous explique.
Parce que dans le choix éditorial, il y a le mot « choix ». Fait que forcément, tu mets des réalités de côté, puis t'en mets d'autres sous les projecteurs. T'as 9 mois pour faire avaler la matière qui est là, puis ta liste d'épicerie est longue, là. Il nous l'a répété, là, c'est compliqué de formuler ces manuels scolaires-là. Mais moi, je vois ça aller, puis lui croit qu'il y a des membres des Premières Nations, puis je suis persuadé que par en dessous, par courriel, il y a des gens qui l'appuient et qui disent « Hey, on est d'accord avec toi. Là. On est des Autochtones, on est des ressortissants des Premières Nations. On est d'accord avec toi que ça n'a pas de sens jusqu'où on est rendu pour essayer de dorer la pilule puis de peaufiner l'histoire pour qu'on ait l'air un peu moins mal, disons. » Mais je serais curieux de voir. Tu montrerais ces manuels scolaires-là, là, tu leur expliquerais. Tu retournerais dans une machine à voyager dans le temps il y a 450 ans, puis tu leur dirais « Voici ce qu'on va dire de vous en 2018. » Voyons, les faits sont survenus comme ça, puis il y aura des sources alternatives pour nous le montrer. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des sources alternatives pour que les jeunes soient au fait de ces massacres-là puis de ces événements tristes-là? C'est arrivé.
Moi, j'aimerais mieux plutôt que dire qu'on est des animateurs radio, dire qu'on est des artisans. Je trouve que ça fait plus prestigieux. Artisans médiatiques.
On va changer le vocabulaire.
Ouais, c'est bon.
Donc là, on est dans le révisionnisme historique pour notre histoire.
Ouais.
Reste à voir si ça va se perpétrer ailleurs dans le monde, parce que il y a d'autres événements tragiques là, qui sont dans les livres d'histoire. Puis il y a bien des Allemands là, actuellement, des petits Allemands à l'école qui lisent sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis ils trippent pas sur ce que les ancêtres ont fait, mais ils lisent quand même.
Parce qu'il faut l'apprendre, c'est important. C'est important de le savoir, t'as raison. Ouais, t'as raison.
Oui, si vous voulez nous écrire là-dessus, studio à commercial fm93.com, 25226, on va pouvoir lire vos commentaires.
Bravo, tu fais un bon job d'artisan, Jeff.
Merci. Ouais.
Le retour d'Éric Duhaime, empreinte